Dangers du sport à haut niveau, quels sont-ils et comment on fait pour s'en remettre? Mon plateau ce matin est féminin et sans doute que cela va d'autant plus nous inspirer avec la profondeur des échanges de mes invités. À côté de moi, Émilie Frolich, représentant les USA dans la catégorie aviron pour ces Jeux de Paris 2024. Bienvenue Émilie.
Thank you, thanks for having me.
Également en distanciel, en visio, devant nous, Rachel Pelot, elle représente la Suisse pour le 800 mètres. Bienvenue Rachel.
Bonjour, merci beaucoup.
Voilà, je précise que vous êtes avec nous pour cette première demi-heure. Également connectée à distance, Charlotte Ménière, une nageuse en eau libre qui a vu un jour sa carrière s'arrêter à cause justement d'un traumatisme. Je n'en dis pas plus. Très heureux de vous retrouver, Charlotte.
Hello, avec plaisir.
Nous rejoindra également Anne Schweitzer, coordinatrice de l'aumônerie du village olympique et coprésidente de la commission pour l'aumônerie. 2 ans de travail réalisés pour cette aumônerie présente en plein cœur de Paris pour le village olympique. Alors je voudrais commencer avec vous Rachel, puisque vous nous quittez dans 30 minutes. Vous êtes arrivée hier matin à Paris depuis la Suisse, et ce qui peut paraître parfois étrange, c'est que finalement vous avez appris votre sélection pour ces Jeux de Paris 2024, si je ne me trompe pas, des suites de votre record obtenu le 29 juin dernier, c'est bien ça?
Oui, exactement. On était 4 Suissesses avec une possibilité de qualification pour ces Jeux Olympiques. Et on peut envoyer que 3 athlètes par pays sur cette discipline. Et du coup, tout s'est joué au championnat de Suisse. Et ils ont décidé de qualifier les 3 premières. Donc voilà.
Et vous avez créé une certaine surprise parce que c'était pas forcément dans les pronostics là. Vous avez renversé la vapeur, comme on dit. Et vous avez même fait 8 dixièmes de seconde en moins que votre meilleur temps.
Oui, exactement. Bah, je partais sur le papier en tant que 4e. J'avais le 4e chrono des Suissesses de l'année. Et du coup, j'ai juste gardé confiance en moi, gardé confiance en Dieu. Et voilà, j'ai été championne suisse pour la première fois en 7 ans. Donc voilà, très contente d'être ici à Paris aujourd'hui.
8 dixièmes de seconde, ça nous semble tellement peu, mais pour vous, ça semble être l'éternité, non?
Oui, c'est énorme sur 800 mètres. Après, c'est une discipline où il faut avoir la course, le bon jour, la forme du jour aussi. Et tout était super, en fait, ce jour-là. Tout s'est mis en place pour que je puisse courir mon record.
C'est votre deuxième participation aux JO. En fait, vous avez participé aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, ce qui était sans spectateur parce qu'il y avait eu un report à cause de la Covid. Cette fois-ci, vous aviez participé en relais 4 fois 400 mètres. Est-ce que votre préparation et votre état d'esprit pour ces Jeux de Paris 2024 a changé?
Oui, en fait, d'avoir fait les Jeux Olympiques de Tokyo, ça m'a beaucoup aidé. Là, j'arrive ici à Paris, je sais à quoi m'attendre, je sais comment ça se passe. J'ai grandi aussi, évolué en 3 ans. Mes objectifs sont aussi beaucoup plus élevés ici à Paris. Je suis plus forte aussi qu'il y a 3 ans. Donc, je me réjouis d'être la semaine prochaine, de courir dans le Stade de France.
Exactement. Vous serez au Stade de France le vendredi 2 août à 19h45 pour cette série de 800 mètres. Vous avez grandi, vous êtes renforcé aussi bien physiquement, mentalement que spirituellement?
Oui, exactement. J'évolue tous les jours, j'essaie de grandir tous les jours avec Dieu. Et là, dans cette préparation olympique, vraiment, je priais chaque jour que Dieu, il a vraiment envie que je sois à Paris, que j'y sois, et que ce soit pas seulement pour moi ou pour ma propre gloire, mais que ce soit pour la gloire de Dieu, vraiment. Et ça me fait super plaisir aussi de rencontrer d'autres athlètes croyants ici. Et qu'on puisse faire une différence ici, tous ensemble.
Merci Rachel. Émilie Frolich, vous représentez les États-Unis dans la catégorie aviron. Et cela a pu être possible après un entraînement de 2 ans dans le Vermont, si je ne me trompe pas. 2 ans.
En fait, l'entraînement a pris plus de temps que 2 ans, mais effectivement, à Vermont, c'était 2 ans.
Participer aux Jeux Olympiques, c'est finalement une étape de vie?
Yes, I think so.
Oui, je crois.
Est-ce que c'est un rêve de toujours?
Non.
Ça, c'est intéressant parce que généralement, les athlètes, ils rêvent des Jeux Olympiques depuis presque qui sont nés.
En fait, pour moi, tout a basculé le jour où Dieu me l'a mis à cœur il y a 5 ans.
C'était en 2019 au Moyen-Orient? Vous voulez bien nous raconter?
Donc, après avoir été diplômée de la fac, je suis partie pendant une année et j'ai fait des missions. Je voulais pleinement me consacrer à Dieu, donc j'ai décidé d'abandonner le fait d'être athlète. Donc j'ai dit à l'équipe nationale que je ne voulais plus faire partie de l'équipe nationale. Donc lorsque j'étais à mi-chemin, presque 6 mois dans le fait d'être missionnaire à temps plein, Dieu m'a donné une vision. Et dans cette vision, Dieu m'a démontré qu'il n'y a aucun autre événement où toutes les nations s'assemble à part pour les Jeux Olympiques. Et il m'a expliqué que lui, il a envie d'être glorifié à travers cet événement. Et il est à la recherche de personnes qui sont prêtes à aller participer aux Jeux Olympiques pour représenter Jésus au lieu de représenter leur nation, leur pays. Donc j'ai dit « Oui, Seigneur, choisis-moi !»
Oui, vous dites « Votre mission, c'est de pouvoir pointer les autres vers Dieu. » Pourquoi?
Absolument.
Dans quel but?
Dieu m'a sauvé littéralement, il a sauvé ma vie, il m'a révélé mon identité, et maintenant je sais que voilà pourquoi je suis née et c'est ce que j'ai envie de faire.
Charlotte Meynière, vous, les JO, c'était un rêve depuis toute petite. Vous avez commencé à faire du ski, d'où, parce que voilà, vous êtes en Savoie, hein, forcément avec les Alpes, etc. Donc vous avez grandi dans cette atmosphère-là, finalement, avec votre famille aussi, et votre papa particulièrement. D'ailleurs, vous continuez, hein, si je ne me trompe pas, à donner des cours de ski lorsque c'est la saison. Finalement, vous êtes dirigé vers la nage en eau libre. Et clairement pour vous, dès le départ, le but ultime, le but à atteindre, le Graal, comme vous dites, c'est d'aller au JO.
Oui, en effet, depuis tout le départ, depuis que je suis toute petite, dès ma première compétition, mon goal, c'était les JO et je me suis levée tous les jours pour cet ultime but. Et c'est devenu après une quête finalement malsaine et puis il y a un moment donné où tout s'est écroulé.
Ouais, les JO, c'était un peu votre dieu, quoi. Votre dieu à atteindre.
Exactement, oui.
Et finalement, vous avez plutôt vécu l'enfer.
Oui, mais Dieu est venu me chercher au fond de ce gouffre-là. J'ai arrêté ma carrière très tôt, à 20 ans. Et en fait, il faut savoir que jusque-là, je me suis entraînée sans jamais trop me reposer. Et puis à un moment donné, mon corps a craqué tout simplement, puisque je ne lui laissais pas de repos. Et puis, c'est là que du jour au lendemain, finalement, mon rêve et le but et le sens de ma vie s'écroule et où arrivent toutes les questions existentielles mais pourquoi j'existe, quel est le sens de la vie, ça vaut plus la peine de vivre et toutes ces choses-là.
Alors disons-le tout de suite maintenant, il vous arrive quelque chose dont on n'est pas très bien finalement l'existence, vous vivez de l'anorexie mentale. Mm-hmm. Ça veut dire quoi?
Oui, alors l'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire. Mais le problème, c'est jamais l'alimentation dans ce genre de choses. C'est toujours ce qu'il y a derrière. C'est les questions qui relèvent de l'identité. Donc forcément, arrive un moment où le but de ma vie s'effondre, où je cherche mon identité et où je la greffe sur finalement autre chose que le sport de haut niveau. Et ça va être la nourriture. Avec ça, aussi le but de punir mon corps pour ce qu'il m'a fait subir, alors qu'en fait, c'est moi qui lui ai fait subir tout ce qu'il a subi. Du coup, en le privant de manger, en se vengeant quelque part de m'avoir, comme entre guillemets, lâché pour cet objectif ultime, en fait.
Rachel, pour vous, c'est votre deuxième participation aux Jeux Olympiques. Forcément, l'entraînement, ça demande à la fois de faire souffrir son corps, ça demande également de garder claires ses pensées pour l'avenir. Comment la foi vient faire tenir l'équilibre entre ces deux notions-là?
Quand j'ai participé à Tokyo, c'était avec le relais. Et on était 6 filles pour 4 places qui devaient courir. Et là aussi, à l'époque, je n'étais pas sûre de courir et c'était vraiment difficile pour moi. Et je me rappelle que j'avais vraiment prié et demandé à Dieu que vraiment, que je puisse vraiment compter sur lui. Et que je me rappelle, j'avais une aumônière de prière qui avait vraiment prié pour moi et qui avait ces paroles en me disant « Mais quoi qu'il arrive, que tu cours ou pas, Dieu, il t'aime et tu es sa fille et il t'aime quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que ça m'avait fait du bien parce qu'en fait, je sais que si j'échoue ou si je réussis, quoi qu'il se passe sur la piste, Dieu, il est là pour moi, il m'aime. Et je sais qu'en Dieu, j'ai la victoire. Et c'est ça qui m'aide en fait à avancer.
On a beau être adulé parfois par le public, et pourtant, on ne se sent pas nécessairement aimé.
Oui, dans le sport, c'est vraiment... je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment difficile. Et on sait que oui, quoi qu'il se passe, Dieu est là, il nous aime. Et surtout quand on fait peut-être des sports d'équipe, c'est peut-être un peu plus difficile que là, que je suis en individuel. Je sais que tout repose sur moi-même et que voilà, si je réussis ou si je perds, entre guillemets, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Mais je sais que Dieu, il est toujours là, il m'accompagne et que voilà, je sais que je peux me reposer dans ses bras.
Je sais que le temps est compté pour vous, Rachel, parce que vous êtes arrivée à Paris seulement hier et vous devez rejoindre votre équipe ensuite. Est-ce que vous serez quand même... Toutefois, OK de rester avec nous jusqu'à 10h05.
Oui, j'ai rendez-vous à 10h15 pour aller à l'entraînement. Donc ça
alors,
va.
C'est... Ça va aller. Je ne voudrais pas non plus que vous vous blessiez en courant de trop. Hein. Donc dites-le-moi.
Ça va.
Très bien, merci. Anne, c'est intéressant ce que nous disait à l'instant Rachel. Finalement, cette force-là, cet équilibre et cet amour de pouvoir le ressentir, eh bien, c'est un travail qu'elle a pu accomplir avec un aumônier. Alors ça aussi, on a un peu du mal à comprendre de quoi il s'agit. Pour vous, c'est d'une importance absolue. Vous y travaillez depuis 2 ans à la coordination de cette aumônerie présente sur le village olympique. Hein.
Voilà, donc c'est la Fédération protestante de France qui m'a recruté, en fait, qui m'a demandé si j'étais OK pour co-présider cette commission, puisqu'en fait, ça fait partie des réquisitoires du CIO d'avoir une aumônerie des différentes religions. Et pour l'aumônerie chrétienne, il faut voilà, qu'il y ait à la fois les protestants, les catholiques et les orthodoxes. Et du coup, avec Jean-Fred Berger, on co-préside on a co-présidé depuis donc 2 ans et demi la mise en place de cette commission. Et c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir avoir des aumôniers. Alors j'imagine que ça vous a déjà été dit, notamment par certains de mes collègues aumôniers protestants dans les derniers jours, mais de pouvoir être une oreille bienveillante, attentive, qui n'a pas de lien avec les délégations, avec les nations, et du coup on peut être neutre, on n'apporte pas de pression, mais au contraire on est présent. Et je veux dire, chaque athlète, chaque personne, staff, les coachs, les kinés, en fait, sont des personnes qui sont spirituelles quelque part. On a tous cette dimension spirituelle à l'intérieur de nous et on désire y répondre. Pour les croyants chrétiens, pouvoir les encourager, prier pour eux et puis répondre aux questions des autres, quoi.
Ce qui revient beaucoup quand même, mm-hmm. C'est cette notion d'amour.
Ouais. Ah, mais je pense. Enfin, je veux dire, pouvoir apporter cet amour gratuit, et en fait le désir, alors personnellement et je pense la plupart de nos aumôniers, le désir c'est de pouvoir être le reflet de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu pour chaque être humain, et de pouvoir le communiquer en parole, en acte, en geste, en silence, enfin, tout dépend de comment nous sommes inspirés pour ça, mais ça c'est essentiel, enfin je veux dire le Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, enfin je veux dire le
c'est le passage de la Bible,
chose,
hein, Jean 3, 16.
Dieu a tant aimé le monde. Ouais. Oui, voilà, un passage de l'évangile de Jean. L'amour de Dieu est prioritaire, est premier. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est la motivation de Dieu pour nous rejoindre, c'est son amour.
J'ai presque envie de dire que souvent, on peut avoir justement tendance à oublier en fait, de mettre Dieu à la première place, mais ces deux notions-là viennent. C'est parce que Dieu nous a premièrement aimés qu'il nous faudrait mettre Dieu à la première place dans chacun de nos choix et dans chacune des sphères de notre vie.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être une obligation lourde. C'est vraiment, enfin, l'invitation. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui et en relation bonne avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre d'un légalisme, mais une invitation à quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir être en communion, partager l'intimité même à l'intérieur du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. On est invité à ça et à devenir davantage à sa ressemblance, hein, chacun de manière individuelle. On est tous créés de manière unique. On n'est pas là pour être des clones, les chrétiens ne sont pas là pour être des clones les uns des autres, mais de pouvoir être par l'inhabitation du Saint-Esprit, la manifestation unique et ce que toi tu es, Johan, et ce que je suis, et ce qu'est Rachel ou d'autres, sera avec le parfum de ce que nous sommes, créé de manière unique. Et ça, c'est un privilège incroyable. Et c'est. Ouais.
Alors, si vous deviez formuler une prière pour ces Jeux de Paris 2024, quelle serait-elle ?
Mais pour moi, enfin. Un des passages qui m'a vraiment profondément touchée quand on m'a demandé, en fait, enfin, il y en avait deux, de relever ce défi, donc de co-présider cette commission. Il y avait d'abord, enfin, c'est une amie qui me l'avait donné le passage, en fait, de l'appel à Marie à qui Dieu dit, voilà, tu seras enceinte et compagnie. Et puis, elle lui dit, mais comment ça va être possible? Et l'ange qui dit, n'aie pas peur car tu as la faveur du Seigneur. Et toute la suite du passage, c'est lui annoncer qu'elle va être enceinte de celui qui sera le Fils de Dieu. Et ma prière, honnêtement, c'est que Jésus naisse au JO. Ça peut paraître très bizarre, mais que sa présence puisse, oui, se manifester dans le cœur de beaucoup.
Rachel Pelot, ce que vient de dire Anne, comment vous le prenez, vous, que Jésus puisse naître durant ces Jeux Olympiques?
Oui, moi, je trouve ça vraiment très beau, parce que, comme elle l'a dit avant, pour moi, c'est... On est tous athlètes ici, on représente nos pays, mais en fait, on est une équipe. On représente Dieu, on représente Jésus ici à Paris. Et c'est aussi ce que j'ai sur le cœur, c'est qu'on puisse vraiment partager la parole de Dieu, partager ce qu'il a fait pour nous. Et c'est vraiment ça notre premier objectif, en fait. Et c'est surtout ouais, de montrer tout l'amour qu'on a, que Dieu nous donne, l'amour que Dieu a pour nous. Bah de le montrer aux autres athlètes, et c'est vraiment ça notre objectif ici, notre objectif premier.
Rachel, merci beaucoup de nous avoir déjà accordé ce temps-là. Je rappelle que vous représentez la Suisse pour le 800 mètres. Votre épreuve aura lieu vendredi prochain à 19h45. Bien sûr, eh bien, nous prierons pour vous, et là vous devez filer à l'entraînement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Phare FM en ce vendredi matin, Rachel.
Merci à vous, soyez bénis.
Également, bye bye. Au revoir, au revoir. Charlotte Ménière, revenons encore sur ce parcours, d'entendre là ce qui s'échange sur le plateau, ça vous fait réagir ?
Ben, ça me réjouit parce que c'est ça, genre que Jésus se manifeste au milieu de ces JO, c'est le goal premier de tout athlète, enfin ça devrait être le goal premier de tout athlète chrétien qui est là, le premier objectif en fait, et c'est réjouissant de voir que voilà, il y a plein de domaines de société qui existent, et dans le sport il faut aussi qu'il y ait une manifestation de la présence de Dieu et que les cœurs soient bouleversés, transformés, changés, et pour ça il faut des ouvriers pour cette moisson. Ça me réjouit, ouais.
Vous avez mis un terme à votre carrière jeune, vous nous disiez un peu plus tôt, et puis finalement, votre quête du Graal, Jeux Olympiques, s'est transformée en revanche sur votre corps. Vous avez vécu de l'anorexie mentale, et vous allez pouvoir nous expliquer dans quelques instants comment vous vous en êtes sorti et comment vous avez pu être guéri, et également d'une autre maladie d'ailleurs. Vous dites, parce qu'aujourd'hui, hein, vous accompagnez, vous réseautez avec des athlètes de haut niveau, et vous voulez justement prévenir dans le milieu du sport ce que vous-même vous avez subi. Vous dites, notre but, c'est que là où il y a l'injustice, nous devons apporter la justice. Là où il y a la violence, et le milieu du sport est violent, nous devons apporter la paix. Là où règne l'ombre, nous devons mettre de la lumière. Mm-hmm. Et comment on fait ?
Oui, bah c'est totalement ça. Bah, ça, c'est être ambassadeur de Christ, et puis c'est demander les stratégies à Dieu de comment faire, parce que par nos propres forces, évidemment qu'on ne peut pas faire ça. C'est trop compliqué, ça dépasse l'humain en fait. Donc c'est sûr que ça demande du courage aussi, parce que des fois peut-être que Dieu peut nous appeler à dénoncer des choses qui se passent en coulisses dans le milieu du sport et que personne ne dénonce. Mais du coup, qui c'est qui va le faire si c'est nous qui ne le faisons pas? Personne en fait. Donc ça a un coût, je dirais, comme tout appel, quand Dieu nous appelle à une mission, à quelque chose, hein. Ça coûte, mais...
Il n'y a pas de victoire sans échec.
Sans échec, je ne dirais pas échec, parce qu'échec, ça sonne comme...
Ok, alors il n'y a pas de victoire sans sacrifice ?
Oui, plutôt, oui. Ou sans combat.
Sans combat. Émilie Frolich, vous nous disiez un peu plus tôt, je rappelle que vous représentez les États-Unis pour l'aviron, pour ces Jeux de Paris.
So Emily, I just want to remind everyone that you're here to represent the USA in the rowing department.
Et en 2019, alors que vous êtes en mission au Moyen-Orient, eh bien, vous, et que les JO pour vous, c'est absolument pas un but à atteindre, vous sentez réellement que Dieu vous appelle à devenir une athlète, pas pour vous-même, mais pour les autres. Vous dites, on doit planter des graines, arroser des semences et voir des athlètes donner leur cœur à Dieu. Parce que pour vous, d'avoir donné votre cœur à Dieu, ça vous a changé et ça vous a fait grandir. Sans Dieu, vous ne pourrez être aujourd'hui là où vous êtes. Réellement ?
Amen.
Oui, absolument. Amen.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement ?
Lorsque j'ai décidé de venir et m'entraîner pour les Jeux Olympiques, il n'y avait que des portes fermées devant moi. Et même il y a seulement deux mois, tous les coachs, ils m'ont enlevé et retiré des équipes. Mais Dieu avait un autre plan.
Ça, c'est un combat, ça. Comment on se sent à ce moment-là ? Persécuté ?
En fait, je pense que lorsqu'on passe cinq années à se battre et à vraiment tout faire pour arriver à ce résultat, on apprend beaucoup de choses. Il y a eu tellement de moments où, au niveau physique, je savais que ce n'était pas possible et je ne savais pas comment faire, mais Dieu m'avait dit que ça serait possible, donc je lui ai fait confiance.
Quand toutes les portes se ferment, on pourrait en vouloir à tout plein de monde. Mais vous, vous êtes accroché à ce que Dieu vous avait dit. Bon, ça demande quand même un petit peu d'effort, non ?
Sûrement. Je pense que ce que Dieu dit, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Et Dieu, il est vivant et il parle encore aujourd'hui. Donc, lorsque j'avais besoin d'une vision ou de comprendre une situation, je passais du temps dans la prière avec Dieu et il me donnait la direction, il me donnait sa vision. Donc si Dieu a dit qu'il serait glorifié aux Jeux Olympiques à Paris, il le sera.
Et du coup, eh bien, malgré toutes ces portes fermées, vous voilà justement à Paris.
Amen.
Amen.
Ça fait quoi d'être à Paris ?
Je pense pas que j'ai encore réalisé que je suis là.
Et vous vous attendez à quoi ? Quand on dit donner la gloire à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Je pense qu'il s'agit de l'inclure dans les petites choses, dans mes interactions avec les personnes ici présentes à Paris. Partout où nous allons en tant que croyants, nous transportons la lumière de Dieu avec nous. Donc, c'est important de ne pas le dénigrer.
Est-ce que, finalement, au-delà du fait de gagner ou de perdre, Le fait de pratiquer votre discipline, c'est aussi un acte de louange, de reconnaissance à Dieu.
Je pense que le monde a une manière d'envisager le fait de gagner ou de perdre différemment de la manière dont Dieu perçoit les choses. L'objectif de Dieu, c'est d'amener les personnes à le connaître, n'est-ce pas ? Donc, si moi, j'obtiens la victoire ou j'ai une plus grande source d'influence grâce à l'aviron, dans ce cas, Dieu il peut utiliser cette plateforme pour ramener plus de personnes à lui. Donc, toutes les victoires remportées au niveau terrestre peuvent être retranscrites pour des victoires célestes.
Il y a beaucoup de passages dans la Bible où il y a justement la notion de l'eau. Le peuple hébreu a traversé la mer Rouge. Jésus était dans un bateau et a calmé la tempête. Est-ce que vous-même, là, quand vous êtes dans votre aviron et que vous devez ramer, vous avez parfois le sentiment que, comme si Jésus ramait avec vous ?
Oui, absolument.
Ah, moi aussi, j'ai envie de vivre ça, du coup.
Come on out.
Vas-y, non, viens.
Je ne suis pas assez fort.
not yet.
Anne, ce qui est intéressant avec notre plateau ici et toutes ces athlètes féminines, c'est que c'était loin d'être gagné. Hein, parce qu'à l'origine, même si les Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin devaient être ouverts à tous les athlètes sans distinction, en fait, pour participer aux JO, il fallait être déjà sportif amateur. Et en fait, ce n'était pas vraiment comme un principe d'inclusion, mais c'était plutôt juste un subterfuge de la haute société pour en exclure les femmes et les pauvres.
Ah, ça a changé.
Ah ouais, ça a changé.
Apporter un tout petit complément à ce que je disais tout à l'heure là, par rapport à permettre que Jésus soit né au JO. Je voulais juste te dire, parce que c'est important,
oui,
que en tant qu'aumônier, en fait, on respecte vraiment la charte qui est de non-prosélytisme. C'est-à-dire, ouais, que nous, on a à cœur de rayonner de l'amour de Jésus et on espère que des gens soient prêts à venir entendre. Surtout que, pardon, du coup, je déplace un tout petit peu la question, mais il y a un passage fort.
Oui, mais ça nous rejoint dans la laïcité Jésus quand même. Donc, on va pouvoir aller dans cet aspect-là. Allez-y. Ouais. Vous avez un deuxième passage tout à l'heure.
Oui, que c'était dans Actes 1, 8, en fait, au moment où Jésus va partir, donc l'ascension, et il promet l'envoi du Saint-Esprit, et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait fait sourire à l'époque en me disant, ah ah, c'est qu'à l'époque, donc, vous serez mes témoins à Jérusalem, en gros, c'est la capitale d'Israël, ouais, si on veut, à l'époque,
oui.
Et jusqu'aux extrémités de la terre, et je me disais, mais aujourd'hui, c'est les extrémités de la terre qui viennent dans notre capitale à nous. Donc, du coup, c'est voilà notre prière qu'on puisse être rayonnant de l'amour du Christ, pouvoir répondre à ceux qui s'interrogent. Ce matin, la lecture, je lisais une petite méditation et c'était à nouveau dans Actes, avec le passage dans Actes 10 où il y a ce centenier, enfin ce haut dignitaire, oui, romain, donc, oui, qui était un peu quelque part l'ennemi d'Israël,
oui, clairement,
et qui en fait priait régulièrement, qui faisait des aumônes. Et à qui Dieu dit, à Pierre, qui lui est pas trop intéressé
donc
par
un des disciples de
les
Jésus.
Romains, voilà, et qui envoie le principal disciple, presque, pour aller voir Corneille. Et je dis, Seigneur, prépare-nous à rejoindre les Corneilles que tu prépares, quoi. Oh, enfin, donne, ouais, à des Corneilles d'avoir soif et de chercher, et envoie-nous, mets-les sur notre
chemin,
pas forcément que nous, aumôniers, mais aussi les croyants, parmi les délégations.
Alors Anne, on peut le comprendre ça, mais quand même, des fois, on a plutôt tendance à en faire des caisses, quoi. Alors que Jésus était tellement simple, il n'enlevait pas son t-shirt, oui, en disant « je t'aime », quoi.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça aussi, enfin, je crois vraiment, on peut dire des choses, mais si nos actes et nos attitudes contredisent ce qu'on dit, on peut avoir toute la bonne technique, connaître des versets bibliques par cœur et tout ça, mais on y revient, hein, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples, et c'est à l'amour qu'on a pour le monde, et un amour aussi concret, quoi, et d'accueillir les personnes telles qu'elles sont. Je veux dire, dans notre salle des chrétiens, je veux dire, il y a des aumôniers musulmans qui sont passés, des aumôniers bouddhistes, et voilà, le désir, c'est de pouvoir être accueillant simplement.
Ouais, et ça, dans le contexte de laïcité pour notre pays français, ça vaut la peine d'être dit, parce que c'est absolument pas ce que les médias, ouais, véhiculent constamment. Hein. Ils nous affrontent, ils nous mettent les mains les uns contre les autres, hein, ils nous font croire que nous sommes des ennemis l'un pour l'autre. Mais la réalité, c'est que dans la pratique, vous, c'est ce que vous vivez, en fait. Hein. Dans votre quotidien d'aumônière, il y a une réelle fraternité.
Oui, c'est ça. Il y a Chaim Korsia, il y a Moshe, qui est un des rabbins, qui est un des aumôniers juifs, qui a d'ailleurs fait une petite citation, je crois, dans le matin, mais qui parle vraiment d'une fraternité. Et il y a un truc rigolo sur le village. On peut aller, il y a une poste où on peut aller faire le timbre à sa propre effigie.
Ah oui.
Avec la marque. Oui, c'est rigolo.
Je vous envoie le logo Phare FM, mais comme ça, vous irez faire pour nous.
Alors là, on n'a pas trop le droit de faire de la pub.
Non, j'imagine. C'était une blague.
Il y a plusieurs. Voilà, mais il y a plusieurs des différentes confessions, chrétiens, juifs, bouddhistes et tout ça, qui sont allés faire leur timbre ensemble, et pour montrer.
Ah.
Et on a pris des photos aussi avec les aumôniers ensemble. Alors c'est sûr que nous, on a ce désir de refléter Christ, ça c'est sûr, mais on peut accueillir tout un chacun. Jésus, c'est exactement ce que vous disiez, il n'était pas affolé en rencontrant les gens, il les prenait là où ils étaient, il allait là où ils étaient, et ben voilà, on veut être disponible.
Merci d'avoir pris le temps ce matin, dans tout votre planning qui est ultra serré, eh bien, d'avoir été parmi nous. Je suis sûr que ça nous a aidé à pouvoir prendre de la hauteur aussi dans cette émission.
Et priez pour nous, ceux qui nous entendent là, pour que, voilà,
et
pour ces athlètes, il y a beaucoup de pression, beaucoup, beaucoup de choses que voilà, ils puissent être rejoints.
Évidemment, très bonne journée, Anne.
Bonjour. Je salue un de mes aumôniers, un des aumôniers.
Eh bien, vous le saluez aussi également de la part de Phare FM. Merci beaucoup, Anne. Très bonne journée.
D'accord.
Et au plaisir. Au revoir.
Merci. Au plaisir. Au revoir.
Dans Au-delà du sport ce matin, eh bien, nous abordons ce sujet sensible, mais ô combien présent dans la vie des athlètes de haut niveau, justement celui des dangers. Et là où on peut s'écarter, perdre de vue notre but, ou alors du coup se rendre compte que le but à atteindre n'était pas nécessairement le bon, en tout cas le bon pour soi, et que Dieu avait un meilleur plan pour nous. C'est ce que nous allons pouvoir développer jusqu'à 11h30 dans Au-delà du sport avec Charlotte Ménière, ancienne nageuse nageuse en eau libre qui a mis un terme relativement tôt à sa carrière, à l'âge de 20 ans, et puis ensuite a rencontré un véritable combat dans son corps, puisque anorexie mentale, mais également maladie de Lyme. Nous allons pouvoir développer ça dans quelques instants. Également à mes côtés en plateau, en direct depuis Paris, entre le Moulin Rouge et l'Opéra Garnier, Émilie Frolich, représentant les USA dans la catégorie aviron. Je vous invite vraiment, je sais que quand on est captivé par ce que disent nos invités, on a juste envie de profiter, mais ne passez pas à côté quand même de l'opportunité que vous avez de pouvoir poser votre propre question à mes invités par SMS ou encore WhatsApp au 0652 300 342, 0652 300 342. Charlotte, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps justement de plus découvrir ce moment assez noir de votre vie où vous vivez une période d'anorexie mentale. Vous nous le disiez un peu plus tôt, vous vous vengiez en fait sur votre corps parce qu'il vous avait lâché, il ne vous a pas permis d'aller plus loin et de vivre votre rêve qui était de pouvoir un jour participer aux Jeux Olympiques. Vous dites que vous n'écoutiez jamais votre corps et vous ne lui laissiez jamais de repos, et dans le même temps vous dites mais c'est pas de ma faute.
Dans le sens où c'est vrai que j'avais l'impression de devoir mettre la faute sur quelqu'un ou sur quelque chose, parce que je me disais mais de rejeter cette responsabilité, et puis finalement c'était moi qui j'avais pas respecté mon corps, je lui avais pas laissé de repos, puis j'avais fait de cette quête olympique et un objectif ultime, enfin je veux dire j'avais faute sur toute la ligne en vrai.
Corps, âme et esprit, sans cet événement, vous n'auriez peut-être jamais rencontré Dieu.
Peut-être, ou peut-être qu'il serait venu me chercher d'une autre manière.
En tout cas, c'est la manière que vous avez vécue et qui vous a permis un jour de vous rendre compte qu'en fait, votre identité, ce n'était pas à travers ce que vous pensiez être ou à travers ce que vous deviez faire pour essayer d'être la personne que vous vouliez être, mais clairement de juste être pleinement vous-même tel que vous aviez été créé.
Oui, exactement. Mais je pense qu'en tant que sportif, on a tous besoin de l'entendre, que finalement, notre valeur, elle ne dépend pas de nos performances. Et on ne devrait pas exister au travers des yeux, que ce soit de l'entraîneur, du public, des proches, toutes ces choses-là, mais au travers du chrono, quoi, de toujours dire « Ah bah, elle a gagné, tout le monde la regarde, tout le monde… » Enfin, c'est genre trop bien, quoi, mais en réalité, si notre identité, elle repose là-dessus, mais c'est catastrophique, en fait.
Avant de vivre ce changement-là, cette rencontre finalement personnelle avec le Christ, vous vivez donc plus de 2 années là comme ça, complètement coupé du monde, presque face à vous-même et face à cette douleur de l'anorexie mentale. On a du mal à se rendre compte en fait combien finalement dans le silence et chacun dans son... ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là.
C'est vrai que l'anorexie mentale, ça fait partie d'une des maladies aussi où on est vachement enfermé et puis on ne se rend pas compte en fait. On a des espèces d'œillères et puis on a beau nous parler ou essayer de nous dire les choses, parfois on n'entend pas, on ne voit pas, on est complètement dans notre souffrance intérieure. Puis en fait, c'est une mort lente quelque part, c'est comme genre un suicide lent, petit à petit, en arrêtant de manger, finalement, ton corps, il rapetissit, diminue, et puis, en fait, tu veux juste qu'une chose, c'est disparaître, en fait.
Et les pensées aussi, elles deviennent de plus en plus noires à ce moment-là ?
Les pensées, clairement, c'était des pensées de mort tout le temps. Et j'avais envie de... Il y avait quelque chose en moi qui criait, j'avais envie de fuir tout le temps, j'avais l'impression d'être prisonnière de quelque chose, et je l'étais, en réalité. Donc, c'est sûr que les pensées dans la tête, elles tournent en boucle jour et nuit et ça ne s'arrête pas, quoi.
Ça ne s'arrête pas. Jamais. Du coup, il est où l'espoir ?
Il n'y en a plus.
Mais quand il n'y a plus d'espoir, ça ne sert plus à rien de vivre ?
Oui, c'est ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et puis, ça a pris 2 ans et demi avant que vraiment je touche le fond du fond du fond. Mais j'en étais à me taper la tête contre les murs tellement, mentalement, même si je ne pouvais plus de ces pensées de mort, de suicide qui me poursuivaient, et je ne savais pas comment faire, quoi.
Comment réagit votre entourage à ce moment-là ?
Mes parents, très inquiets, évidemment, mais impuissants, parce que c'est aussi une maladie où, ils avaient envie de faire quelque chose, mais quoi ? Si tu ne veux pas entendre, si tu ne veux pas voir, c'est très difficile de soutenir dans ces cas-là. Après, ils ont toujours été là, là pour moi à me souvenir, ça c'est sûr.
Mais c'est difficile de la comprendre en fait, et puis d'identifier le problème, quoi.
Exactement, oui, ça met un petit temps. Et puis après, c'est de s'entourer aussi de, peut-être de professionnels de santé ou de personnes qui savent un peu plus pour savoir un peu comment faire. Parce que des fois, tu as envie d'aider la personne, mais tu renforces ses comportements pathologiques, puis ce n'est pas le bon truc à faire. Mais bon, en tant que parent, tu fais ce que tu peux, quoi.
Et donc, un jour, eh bien, il se passe une révélation, il y a un déclic. Et vous dites que vous n'aviez plus besoin de prouver quoi que ce soit ou faire des choses pour vous sentir aimé ou croire que vous aviez de la valeur. Quelle est donc cette expérience que vous avez vécue ?
Bah, si je peux la comparer à Paul sur la route de Damas,
vous pouvez.
C'était assez radical, c'était fracassant. Il y avait un avant, un après. J'ai littéralement rencontré Dieu dans le train, en fait. Et j'ai découvert un petit feuillet biblique de la bonne semence avec un verset et une histoire. Et puis
des méditations quotidiennes.
Exactement, et ça m'a tellement parlé. J'avais l'impression que ça racontait mon histoire. Et en fait, sur le moment, c'est comme si un aveuglement est tombé et puis que j'ai entendu Dieu me dire « mais je t'ai guéri, je t'ai sauvé ». Et là, j'étais juste remplie d'une joie immense. Après, je sais aussi que cette rencontre, c'est le fruit, et Dieu utilise des ouvriers, hein, c'est le fruit de beaucoup de chrétiens qui priaient pour moi et qui savaient que j'étais dans cet état-là. Moi, je ne savais même pas qu'ils étaient chrétiens.
Comment ça se fait qu'il y avait des chrétiens qui priaient pour vous ?
Parce que ma maman avait une amie à elle qui était chrétienne, et puis du coup, elle lui avait partagé la situation. Et en fait, cette amie-là, elle avait un groupe de maison, et pendant 2 ans, en fait, ils ont prié pour moi, en fait. Tout le temps que j'étais dans l'anorexie.
Donc aussi bien dans l'invisible, vous étiez dans une souffrance extrême, et dans l'invisible également, il y avait des personnes qui priaient pour vous à ce moment-là.
Exactement, oui.
C'est fort, ça.
On persévérait jusqu'au bout, jusqu'à la percée.
À la percée, vous la vivez, hein. À un moment donné, vous la vivez.
À un moment donné, je la vis dans ce train où j'entends vraiment Dieu me parler, puis je réalise à ce moment-là, je ne suis pas encore guérie physiquement, mais dans le sens, j'ai une joie qui est surnaturelle que je n'ai jamais eue de toute ma vie, même après avoir gagné des choses et des trucs, c'est une joie mais incomparable où je suis là, mais en fait, il y a plus, quoi. Ce n'est pas juste ce que j'ai vécu jusque-là, il y a plus, il y a Dieu, il a un plan pour ma vie, il y a un plan de rédemption, il y a d'autres choses, il y a de la joie, et puis tout à coup, je suis remplie d'espérance pour repartir sur un plan qui est tout autre et où en une journée, en fait, je prends des décisions où toute ma vie change, il n'y a plus rien qui ressemble à avant.
Le triptyque devient présent dans votre vie, l'amour premièrement, l'espérance et puis finalement la foi. Et donc on vient aussi quand même, parce que c'est important, une guérison physique, parce que l'anorexie mentale, on fait une croix dessus, hein.
Oui, c'est un miracle vraiment parce que c'est une maladie. Enfin, aujourd'hui, déjà, la durée moyenne d'hospitalisation, c'est 2 ans et demi. Moi, j'ai demandé à me faire hospitaliser. Je suis restée 3 mois et demi et je ne pensais pas. Mais en 3 mois et demi, Dieu m'a guérie physiquement, psychologiquement. Je suis sortie sans aucune séquelle, sans devoir, bien sûr, me positionner parce que des pensées revenaient vis-à-vis de mes anciens schémas de fonctionnement, mais sans devoir avoir des difficultés à me nourrir et à galérer, quoi. Donc, j'ai été totalement guérie et ça, c'est un témoignage qui est de l'ordre du miracle et qui peut être que de Dieu parce que l'anorexie mentale, tu ne peux pas guérir. Enfin, je veux dire, c'est super dur.
Petite cerise sur le gâteau, vous êtes également guérie de la maladie de Lyme.
Exactement, oui, aussi. Qui, ça, est une maladie aussi complexe. Et puis, en fait, quand je suis sortie de clinique, c'est comme si toutes les pendules étaient remises à zéro. Et j'ai été guérie de la maladie de Lyme complètement, alors que j'avais été diagnostiquée, j'avais plusieurs symptômes et tout ça. Et du coup, ça, c'est parti avec, c'était page blanche, guérie du corps, de l'âme et de l'esprit.
Oui, c'est une maladie qui est transmise lors d'une piqûre de tique infectée par une bactérie de la famille des spirochètes, voilà, un petit brin de culture. Mais concrètement, pour vous, là, concrètement, qu'est-ce que vous vivez dans votre corps ?
Ben, je vis. En fait, c'était difficile parce que ça arrivait en même temps que le surentraînement. Donc, je vis des symptômes douloureux au niveau de mon corps, donc au niveau des articulations. Je suis épuisée. Je dors 12 heures par nuit et je suis encore fatiguée. J'ai du mal à me concentrer. Enfin, les symptômes sont assez variables d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, moi, le surentraînement mélangé à la maladie de Lyme, ça a fait un mélange assez terrible à vivre. Donc voilà, ouais.
avec moi, Émilie Frolich. Elle représente les États-Unis pour l'Aviron. Comment vous inspire l'histoire de Charlotte qu'on vient d'entendre?
En fait, l'histoire de Charlotte m'a particulièrement touchée et particulièrement émue. J'ai même envie de prier pour Charlotte, donc peut-être qu'on aura du temps de le faire juste après. Et justement, cette histoire m'a parlé parce que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui justement a cette même maladie. Donc du coup, vraiment, ça fait écho à moi.
Alors aujourd'hui, Émilie, vous êtes également impliquée au sein d'une association qui s'appelle Modern Day, pardon, une organisation non dénominationnelle, décidément je ne vais pas y arriver, en soutien aux missionnaires chrétiens. Parce que pour vous, vous impliquez dans des programmes de mentorat et de bénévolat pour promouvoir le sport et l'éducation, c'est aussi devenu votre priorité. Un peu comme Jésus en fait, c'est en prenant soin des autres que les autres peuvent rencontrer Dieu. Amour en action, love in action. Alors, ça peut paraître tellement naturel, on le dit là comme ça, c'est une évidence, etc. Mais ne pas regarder à soi, mais regarder aux autres, c'est loin de naturel.
This is how our God operates. Effectivement, je crois que c'est comme ça que Dieu agit. Plus tu te concentres et te rapproches sur Dieu et de Dieu, tu te rends compte que son cœur, en fait, est également tourné vers l'extérieur. Donc, si notre regard est concentré sur Dieu et sur ce que Dieu voit, en fait, nous allons être concentrés sur les personnes et non pas sur nous-mêmes.
In America, there's a term we call navel gazing.
Aux États-Unis, il y a ce terme qu'on utilise qui dit être nombriliste.
And it's where you're looking down at your navel.
Et en fait, effectivement, je remarque qu'aux États-Unis, on utilise ce terme d'être nombriliste, mais si on regarde à soi, même moi, ça m'arrive si je suis inquiète par rapport à ce que je porte ou la manière dont j'apparais.
But what God wants is no navel gazing.
Ce que Dieu veut, c'est ne soyons pas nombrilistes, mais regardons vers le haut à Dieu.
Une auditrice, justement, eh bien, voulait vous demander, Émilie, si vous êtes au courant qu'en France, il y a seulement 1% de chrétiens. C'est clairement différent que les États-Unis.
En fait, ce n'est pas étonnant ce chiffre, mais en fait, aux États-Unis, il y a tellement de personnes qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas cette marche avec Dieu. Donc, effectivement, je ne suis pas très surpris.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être chrétien?
De suivre Jésus.
Oui, mais comme vous dites que finalement, on peut se revendiquer chrétien sans réellement l'être.
Donc, c'est culturel, en fait. Peut-être que tu vas à l'église le dimanche ou tu proclames à tous que tu es chrétien. Mais en fait, au niveau personnel, tu n'es pas à la recherche de Dieu. Tu ne cherches pas à le connaître. Tu ne cherches pas à être obéissant à ses principes. Et ça, c'était littéralement moi pendant 20 ans de ma vie.
Aujourd'hui, vous êtes à Paris parce que vous représentez les États-Unis pour ces Jeux Olympiques en aviron. Ça vous fait quoi d'entendre voilà, différents témoignages finalement d'autres athlètes comme vous qui ont cette foi en Christ?
C'est comme voir ce que Jésus-Christ ou ce que Dieu voulait arriver à maturité. Ça nécessite plus qu'une seule personne pour atteindre et accomplir la vision de Dieu dans toutes les sphères, dans toutes les arènes différentes. Peut-être que moi, je peux toucher l'équipe d'aviron aux États-Unis. Mais ces sœurs qui sont là présentes avec moi, elles peuvent toucher d'autres personnes dans leur sphère. Et toutes les autres personnes présentes ici dans cette salle peuvent toucher d'autres personnes également.
Comment on fait pour se reconnaître lorsqu'on est athlète de haut niveau? Comment on fait pour se reconnaître entre chrétiens?
The Holy Spirit helps on that one.
Le Saint-Esprit nous aide pour cela.
Yeah, there's no clear answer, but usually people who are very happy all the time.
Souvent, en fait, on les reconnaît parce qu'ils sont toujours joyeux tout le temps.
Yeah, there's like a confidence, a peace.
Il y a une confiance, il y a une paix. Vraiment, ça c'est des indices qu'on peut suivre.
Il y a une expression en France qu'on dit, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais finalement, lorsqu'on est chrétien, il y a une différence.
En fait, nous avons la lumière, donc on ne peut pas mettre la lumière sous couvert. On peut le voir.
On parlait tout à l'heure avec Anne, coordinatrice de cette aumônerie présente sur le village olympique. Comment, justement, les aumôniers ont une part importante pour un athlète de haut niveau qui plus est chrétien? Quelle différence ça fait?
Moi, j'ai une mentor spirituelle. Elle n'a peut-être pas le titre d'aumônier, mais et surtout, elle n'est pas du tout athlète. Et ça m'aide personnellement d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans cette phase ou d'état de stress au quotidien pour m'aider à rediriger mon regard sur Dieu. Je pense que Dieu nous a équipés avec le corps de Christ pour une raison, et c'est important pour nous de nous reposer et nous appuyer sur ce corps de Christ lorsqu'on en a besoin, lorsque nous faisons face au stress ou que nous avons besoin d'être redirigés sur lui.
Lorsque vous vous retrouvez avec les autres athlètes pour prier, en fait, vous l'avez compris, on veut juste un petit peu savoir ce qui se passe dans les coulisses, quoi. Comment vous priez? Vous priez les uns pour les autres ou chacun partage un sujet? Voilà, comment ça se passe?
En fait, dans l'équipe d'aviron aux États-Unis, je suis la seule chrétienne. Donc, je n'ai pas encore eu l'opportunité de prier fréquemment avec d'autres athlètes de haut niveau. Mais un jour, par la grâce de Dieu, ça sera ma réalité.
Ça serait un rêve à vivre.
En fait, moi, mon rêve personnel, c'est lorsque chaque tribu, chaque nation, chaque peuple, chaque langue va plier le genou devant Jésus-Christ. Ça, c'est mon rêve qui sera devenu une réalité. Je pense que la vision de Dieu, c'est tellement plus grand que les athlètes.
Merci beaucoup, Émilie. Charlotte Ménière, ancienne nageuse en eau libre, désormais, elle passe le plus clair de son temps à vouloir justement aider les autres à se relever après avoir rencontré un des plus gros bas de sa carrière, après avoir été confrontée au danger de l'échec. Pour elle, ça s'est transformé dans l'anorexie mentale. Et puis, au bout d'un processus de 2 ans et demi, elle fait une rencontre personnelle avec le Christ qui radicalement va changer la donne jusqu'à même lui permettre de vivre ce qu'elle qualifie de miracle, la guérison à la fois de l'anorexie mentale et mais aussi de la maladie de Lyme. À nouveau bonjour Charlotte. Charlotte, vous avez écrit un livre, Dans le creux de la vague, paru aux éditions Vaucher. Pour vous, c'était vraiment important, après avoir vécu cette rencontre avec Dieu et puis ce miracle finalement dans votre corps, que de pouvoir partager votre histoire et de vraiment faire comprendre que corps, âme et esprit, ça va vraiment ensemble, quoi.
C'est-à-dire que dès que j'ai rencontré Dieu, en fait, cette idée d'écrire un livre est venue assez rapidement puisque Dieu m'a donné un don pour l'écriture et je l'ai réalisé très, très rapidement, en fait. Et puis, du coup, à peine hospitalisée en clinique, je me suis mis à écrire, mais pas avec un but de déverser ma souffrance sur le papier et ce genre de choses-là, mais j'étais déjà dans l'optique d'aider, en fait. Et du coup, tous les jours, j'écrivais sur papier tout le temps que j'étais hospitalisée. Et puis, à la fin, ça en a donné un livre, puisque j'écrivais aussi beaucoup quand j'étais sportive de haut niveau, d'où les détails très précis sur les horaires et tout ça. Et puis aujourd'hui, le but, c'est d'aider aussi bien les athlètes que d'aider ceux qui traversent les troubles du comportement alimentaire. Et puis, surtout aussi, venir chercher ceux qui sont perdus, parce que c'est un livre très accessible, étant donné que c'était au début de ma foi, c'est pas un jargon chrétien où on comprend rien, mais c'est vraiment un livre d'évangélisation aussi, je pense, et qui peut toucher beaucoup de personnes. J'ai déjà eu des retours de personnes pas chrétiennes qui l'ont lu et qui ont vraiment été touchées au plus profond de leur cœur, et même qui ont rencontré Dieu au travers de la lecture du livre, en fait.
Double question, Charlotte. Comment on fait pour trouver l'équilibre entre corps, âme et esprit? Et la deuxième, c'est comment on fait pour le maintenir, cet équilibre?
Ça, c'est des stratégies que Dieu nous donne. Enfin, dans le sens, je pense que c'est différent aussi pour chacun, mais il y a une réalité, c'est que dans la Bible, ça parle des trois, et puis on doit se concentrer sur les trois. Il ne doit pas y avoir une partie qui doit être lésée si on s'informe et puis on se laisse enseigner que sur l'âme et l'esprit, et que le corps est laissé de côté, c'est dommage parce que c'est l'outil que Dieu nous confie pour accomplir la mission qu'on a sur cette terre, finalement. Et vice-versa pour les autres parties. Mais je pense que c'est trois axes qu'il ne faut jamais... Il faut toujours les garder en ligne de mire et puis travailler sur les trois parce que, aussi bien aussi dans les pensées, il y a un positionnement à avoir. On a tous des pensées qui peuvent venir et qui ne sont pas de Dieu et contre lesquelles on doit se positionner parfois. Et puis... juste de se positionner et de savoir qu'on a autorité et qu'on peut se positionner, déjà de le savoir, c'est bien, parce qu'il y en a, ils ne le savent pas, ils te laissent envahir par ça. mais Dieu nous donne l'autorité pour le faire, en fait.
Vous allez régulièrement faire des conférences, aller à la rencontre des sportifs, mais aussi des jeunes générations. Qu'est-ce qui revient souvent dans les échanges que vous avez on va se concentrer d'abord sur les jeunes générations, d'ailleurs. Qu'est-ce qui revient régulièrement dans les échanges que vous avez avec eux?
Bah, ce qui revient essentiellement, c'est la question identitaire, c'est toujours ça. Les jeunes se cherchent, les jeunes ne savent pas dans un monde qui manque de plus en plus de repères et où c'est de plus en plus... on ne sait plus où est la vérité, quoi. Et les jeunes cherchent fondamentalement, sont à la recherche de vérité, d'authenticité, de vrai. Et tout ce qu'il y a autour de nous nous pousse à l'inverse. Les réseaux sociaux, tout nous pousse à juste la façade, quoi. Et puis pas la vérité du cœur. Et les jeunes ont vraiment soif et sont à la recherche de ça. Et je pense qu'il faut vraiment prier pour eux parce que il y a cette espèce d'apathie sur eux avec tout ce qui se passe où finalement ils sont tirés vers le mauvais côté. Mais...
Alors vous, ça, vous l'avez vécu sur le tard et c'est également bien l'espoir que vous voulez transmettre aux sportifs de haut niveau, c'est que cette crise identitaire, elle peut être résolue à n'importe quel âge.
Ah, ça, c'est sûr. De toute façon, avec Dieu, c'est jamais trop tard. c'est la phrase.
Oui, vous dites, Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Dieu, c'est celui qui pardonne l'impardonnable.
Exactement. Il pardonne l'impardonnable par l'irréparable. Si on est prêt à se laisser enseigner aussi par lui, à se laisser modeler, parce que, par exemple, moi, j'ai dû tout de suite aussi, j'avais la conviction de demander pardon à Dieu, parce que c'était ma responsabilité. J'avais faux sur toute la ligne et je ne pouvais pas dire... C'est Dieu qui est fautif, qui est coupable de ce qui m'arrive ou tout ça. C'est genre moi, donc pardon Seigneur. Et quand on a ce cœur malléable et puis on a envie de soif de demander pardon, de se repentir et tout ça, bah Dieu il peut faire de finalement nos brisures une valeur extraordinaire et éternelle qui dépasse la valeur de toutes les médailles olympiques réunies en or.
Aujourd'hui, vous êtes guéri de l'anorexie mentale, hein, je le répète, et de la maladie de Lyme également. Et puis, vous allez à la rencontre des sportifs de haut niveau, mais aussi des jeunes générations pour leur partager votre histoire et faire en sorte qu'ils ne vivent pas ce que vous avez vécu. Ce qui est d'autant plus beau, c'est que vous ne pouviez pas être en présentiel avec nous à Paris aujourd'hui parce que vous allez vous-même donner la vie. Vous êtes enceinte, Charlotte.
Alléluia. Oui, alors ça arrive tout bientôt là, donc mais quel bonheur de pouvoir finalement transmettre tout ce que Jésus m'a donné à ce trésor du ciel qu'il nous confie finalement, et puis de faire de cet enfant un disciple de Jésus et de vraiment l'encourager à rentrer dans sa destinée. Et c'est magnifique parce que moi je suis là, mais Dieu a fait un plan de rédemption immense, mais si tu nais dans une famille qui est ancrée en Christ, mais c'est la gloire de Dieu.
Et là, du coup, vous voyez clairement votre corps changer aussi. Ça, c'est inévitable. Et dans cette phase-là, on imagine, et notamment aussi avec les hormones, enfin voilà, moi j'ai deux garçons aussi, donc je sais ce que c'est pas toujours facile à gérer. Mais finalement, c'est à nouveau une manière d'être confronté aussi à notre corps.
Exactement, oui. Puis c'est une manière aussi, enfin, ça peut être une des manières de voir si on a vraiment été guéri de ce qu'on a traversé finalement. Et puis pour moi, c'est une ultime, j'avais pas besoin de confirmation, mais je veux dire, si je peux parler d'une ultime confirmation que j'ai guéri de ces problèmes de perception de mon corps, de toutes ces choses-là, j'ai plus aucun problème avec ça aujourd'hui. Et c'est une grâce, c'est trop, trop bien, quoi, pour pouvoir vivre cette période sereinement et ouais, dans la paix.
Quel est votre quotidien en ce moment, dans cette période-là, d'attente?
Là, je suis dans les trois dernières semaines, du coup, je m'impatiente un peu, je veux dire. Dieu travaille ma patience, mais je me réjouis. Je prends chaque jour, surtout que je vis cette grossesse très, très bien et je m'empare aussi des promesses que Dieu a données là-dessus. Hein. On n'est pas censé vivre, selon moi, une grossesse dans la maladie, la souffrance et la douleur, mais ça doit être vraiment un temps de réjouissance, de joie. Et c'est ce que je vis et grâce à Dieu, et c'est énorme.
Oui, moi j'ai le plaisir de vous voir à l'écran pour notre échange et clairement vous êtes radieuse.
C'est Christ qui brille, hein, c'est pas moi.
Charlotte, ce que vous venez de dire là à l'instant, je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient en capacité de le comprendre, notamment celles et ceux qui n'ont pas forcément d'éducation chrétienne. Comment vous pourriez leur expliquer cela, mais avec un vocabulaire qui pourrait facilement devenir le leur?
La phrase que Christ brille en moi,
ouais,
c'est ça?
Ouais.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on comprend que notre vie, elle ne nous appartient plus et qu'elle appartient à Dieu, et qu'on a lâché prise sur nos envies, nos choses que nous, on aurait envie de faire, nos ambitions, et que c'est Dieu qui a le contrôle, bah, c'est une espèce de mort à soi-même qui fait qu'on est détaché d'une certaine réalité terrestre, où c'est là où justement Jésus peut venir comme à l'intérieur de nous et puis faire ce qu'il veut de nous, en fait, ce qu'il veut qu'on soit. Et puis toute une histoire de lâcher prise, en fait, de dire ben, en fait, j'ai plus le contrôle de ma vie. Et je crois que la majorité des personnes, on est comme ça, hein, que ce soit dans le sport, dans le travail et partout, on veut contrôler, on veut planifier, on veut faire nos choses, nos trucs. Puis en réalité, ça nous mène à la ruine, quoi. Et quand on lâche prise et qu'on dit ok, bah, Dieu, vas-y, fais, et ben finalement il y a des choses merveilleuses.
Vraiment, c'est aussi simple que ça? Dieu, vas-y, fais.
Non, mais Dieu, vas-y, fais. il y a un positionnement aussi, c'est un choix, je veux dire. Si tu dis Dieu, vas-y, fais, Dieu, il connaît l'état de nos cœurs. Et puis si on dit juste Dieu, vas-y, fais, ça va pas nous tomber sur le coin du nez quand on est sur le canapé, ça c'est sûr. il y a une part que nous on a à faire, mais la part que nous on a à faire, souvent on fait plus que ce qu'on doit faire parce qu'on veut contrôler toutes ces choses-là. Et du coup, on ne laisse pas à Dieu sa place pour agir. Mais si on fait juste notre part, et de positionnement et de choix, et de vouloir marcher dans cette voie-là, bah Dieu fait le reste, fait l'impossible, en fait, que humainement, on ne peut pas faire, littéralement.
Eh bien, nous avons une question posée pour Émilie Frolich, d'un auditeur. Émilie, comment vous faites pour témoigner de votre foi en Christ à vos collègues avironistes? Vous disiez tout à l'heure, vous étiez la seule.
Ça commence d'abord par établir un rapport de respect et de confiance avec mes coéquipiers. Voilà pourquoi je dois m'entraîner, vivre avec eux, manger avec eux et vraiment passer du temps avec eux au quotidien. Et ensuite, le secret, c'est tu pries par rapport à ça. Je prie spécifiquement pour que les personnes que Dieu me met à cœur m'accordent la faveur dans leur vie. Et le reste, je ne peux pas l'expliquer. Dieu, il ouvre toujours une porte. Soit il commence à poser des questions ou il se rend vulnérable en ma présence. Et si tu me connais, si tu me tends une petite perche, et ben dans ce cas, je vais tout partager avec toi. Je vais partager l'évangile. Je vais proposer de prier pour toi. Et en plus, je vais partager mon témoignage.
Alors, vous disiez un peu plus tôt que cette porte des Jeux Olympiques s'était brutalement fermée avant de s'ouvrir à nouveau. Et finalement, Dieu est en quelque sorte le Dieu des portes ouvertes, parce que même lorsqu'il y a une porte qui se ferme, il en ouvre une autre, et cette autre-là est bien meilleure que la première.
Yes, amen. I was reading about...
Et je lisais un passage dans la Bible qui parlait justement d'un tribu, en fait, qui s'était contenté de ne pas rentrer pleinement dans la terre promise. Et pendant que je lisais ça, j'ai reçu un message, un texto, qui m'a dit que j'étais retirée de l'équipe. Et c'était à ce moment-là que j'ai pris conscience que ce cheminement que je prenais, ce n'était pas le meilleur que Dieu avait pour moi. Dieu, il avait encore mieux en perspective pour moi. Ce n'était pas plus facile à vivre, ni plus facile dans mes sentiments ou dans mes émotions à expérimenter. Mais vu que je venais tout juste de recevoir une parole fraîche de Dieu, je savais que Dieu, il avait prévu quelque chose de mieux pour moi.
Est-ce que cette terre promise, finalement, c'est de pouvoir être pleinement qui nous sommes, là où nous sommes, dans le moment présent? Ouais, parce que parfois, on a trop la tête dans le futur et on ne vit pas le présent. Et on passe à côté de la terre promise.
Je pense effectivement qu'il y a une certaine nécessité d'être capable de vivre dans l'instant présent. Mais c'est un processus de vraiment ressembler à Jésus au quotidien. Et on ne peut pas sauter jusqu'à la ligne d'arrivée directement. Il y a différentes étapes.
L'encouragement que j'ai l'impression que vous nous donniez là, c'est que pour vous, ces Jeux de Paris 2024, c'est un peu la terre promise, c'est là où vous deviez aller pleinement. Et pour les gens qui sont en train de nous écouter là, et qui se demandent peut-être, mais à quoi je sers? Pourquoi pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Pourquoi je subis ma vie?
En fait, effectivement, oui, c'est vrai qu'on peut envisager que les Jeux olympiques, c'est comme une terre promise. Mais pour moi, je pense vraiment que les 5 années qui m'ont mené à arriver à cette étape, ça, c'est vraiment chaque étape différente. C'était une terre promise parce qu'on ne peut pas inventer les histoires, les actions que Dieu il a accomplies dans ma vie. Donc, pour la personne qui a une grande vision ou raison d'être dans leur vie, en fait, ta raison d'être, elle est tellement simple. Savoure et profite ta relation avec Jésus-Christ et Dieu. Peut-être que c'est un coup bas de l'ennemi qui essaye de te faire ressentir que tu n'es pas en train de remplir pleinement ou accomplir ta raison d'être. Donc, ce que je te suggère, c'est de savourer ton temps dans la présence de Dieu. Et si Dieu, pendant ce temps-là, il te dit « fais quelque chose », eh bien, sois obéissante et fais-le.
Vous venez de dire qu'il y a un ennemi. Et souvent, en fait, quand on n'a pas cette connaissance de la foi, on met tout sur le dos de Dieu, il y a un ennemi.
Effectivement, il y a un ennemi. Effectivement, nous sommes dans le monde et dans ce monde terrestre, il y a un ennemi. Et si vous êtes chrétien, concrètement, vous êtes en guerre avec l'ennemi. Et en fait, c'est un peu comme si tu participes aux Jeux olympiques et que tu es médaille d'or. En fait, c'est toi l'ennemi à abattre parce que tout le monde veut prendre ta place. Et de la même manière, si tu te proclames comme étant chrétien, et bien l'ennemi, il a mis la cible sur toi et donc tu es l'ennemi à abattre pour lui. Donc, en sport, en tant qu'athlète, tu ne te retournes pas pour regarder tes opposants. Tu te concentres exclusivement sur ce qui reste devant toi ou ce qui est en haut. Et c'est la même chose avec notre foi.
Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que, Charlotte, vous voudriez poser une question à Émilie ce matin?
Une question, non, mais vraiment un encouragement. Ça réjouit mon cœur d'entendre une personne comme ça qui est ancrée en Jésus et très radicale et qui est sur le terrain des Jeux olympiques et qui va briller pour Christ. Pour moi, c'est juste une joie immense et je peux que prier pour elle et l'encourager pour toute cette durée où elle est sur cette terre des JO et encore après dans d'autres domaines, mais que vraiment Dieu se manifeste dans cette équipe d'aviron et qu'il y ait des âmes qui soient gagnées à Christ au travers d'elle et je suis persuadée que ça va se produire.
Alors, ce que Charlotte dit, c'est très intéressant. Elle dit, elle est impressionnée, je reformule, hein, mais elle est impressionnée par le fait que vous ayez justement cette cible sur vous, mais que pour vous, ça ne vous arrête pas et ça ne vous empêchera pas de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Et donc, eh bien, qu'elle va aussi prier pour vous.
Thank you. Thanks, Charlotte. Right back at you.
Merci, Charlotte. Je ferai de même pour toi aussi.
Moi, je sens comme une émotion quand même, là. Je sens comme une émotion. On sent que vous comprenez qu'il y a une forme de langage qui nous échappe, mais on sent vraiment une émotion là.
Charlotte, pendant que tu partageais précédemment, j'aimerais juste t'encourager parce que ton témoignage est tellement puissant. Je pense effectivement que toi aussi, tu as cible marquée sur ton dos. Et j'aimerais prier maintenant pour que Dieu puisse t'utiliser pour des personnes qui se sont retrouvées dans une situation similaire parce que moi, je suis consciente que l'ennemi, il est particulièrement actif dans ta vie.
If you want to pray, you can pray.
Elle veut prier pour toi.
Okay, I'll pray, Charlotte.
Elle va prier maintenant.
Father God, I just pray
Père,
for Charlotte
je prie
right
maintenant
now.
Pour Charlotte. Je l'élève auprès de toi maintenant. Je te demande de diffuser son histoire auprès des personnes qui n'avaient pas accès à son histoire.
Father, I ask that you would guard
je te demande de déployer ton ministère d'ange pour sa protection.
You would silence
que tu fais taire la voix de l'ennemi qui est en train de lui chuchoter des choses à ses oreilles.
Renew her mind that she would
renouvelle son esprit pour qu'elle puisse être remplie de l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui puisse l'atteindre parce qu'elle a le Saint-Esprit en elle. Merci pour la vie de Charlotte. Utilise-la pour ta gloire. Tu seras glorifié en Charlotte pour ces Jeux olympiques. Dans le nom de Jésus, on prie Amen.
Beaucoup d'émotions sur le plateau. Je vous laisse l'opportunité de répondre à Émilie, Charlotte.
Quand tu parlais, j'avais une image que je voulais te partager. Je voyais des dominos, en fait. Et puis, tu sais, quand tu fais tomber un domino, tous les autres tombent, en fait. Et en fait, c'est ça qui va se produire, c'est que toi, tu es en Jésus, tu es ce premier domino. Et en fait, tous ceux que tu vas toucher durant cette période de Jeux Olympiques, en fait, ils vont tomber sous la présence de Dieu. Et même des personnes que tu imaginais pas, parce que c'est les autres dominos après qui touchent ceux qui restent. Et en fait, ton témoignage, ton histoire, ce que tu vas partager, ça va comme se répandre même au-delà de ce que toi, tu peux voir juste physiquement. Et bah, je veux juste te bénir et t'encourager pour ce temps. Et je déclare qu'il y aura une moisson d'âme pour Jésus au travers de toi durant ce temps.
Je voudrais vraiment honorer l'ensemble de nos invités pour Au-delà du sport. Rachel Pelot, elle est âgée de 29 ans, elle est suisse, originaire de Bienne, et elle représente eh bien, son pays pour le 800 mètres. Anne Schweitzer, coordinatrice de l'aumônerie du village olympique, coprésidente de la commission pour l'aumônerie. On a pu encore une fois réaliser combien eh bien, les aumôniers avaient une place tellement importante pour les athlètes, d'ailleurs qu'ils soient croyants ou non. Et puis, bien sûr, Charlotte Ménière. Charlotte, merci beaucoup pour le temps accordé. On a bien compris que ces trois dernières semaines de grossesse eh bien, vous paraissent interminables. Alors, je ne sais pas si on doit prier pour que ça arrive maintenant ou un peu plus tard, mais dans tous les cas, eh bien, vraiment ravi de cette rencontre. Et mon petit doigt me dit qu'on devrait être amené à vous retrouver une autre fois sur le plateau de Phare FM dans d'autres circonstances. Merci beaucoup, Charlotte.
Avec grand plaisir. C'était une joie de partager avec vous tous. Et puis, bon courage à Émilie pour la suite.
Eh bien, justement, Émilie Frolich, merci beaucoup d'avoir été présente là dans notre studio éphémère à Paris et d'avoir dit oui tellement rapidement.
Yep, thanks for having me, guys.